À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une religieuse qui a été béatifiée à la suite en particulier de la découverte de son corps en 1920. Elle était parfaitement conservée. Elle avait même l'air beaucoup plus jeune que son âge. Et cette surprise a fait grand bruit à l'époque. C'était le 29 janvier 1920, dans le nord de l'Italie. C'est une sœur Marceline. On a à Montréal des sœurs Marceline. Elles sont en particulier au boulevard Gouin-Ouest, n'est-ce pas, où elles ont un collège. Elles sont aussi sur le haut du mont de Westmount, n'est-ce pas. Elles ont là aussi, sur Upper Belmont, une magnifique institution d'enseignement où elles ont 450 élèves quand même. Et dans l'autre, elles en ont encore davantage. Elles ont d'autres maisons aussi, les sœurs Marceline, qui sont très connues et réputées à Montréal. Le nom de cette religieuse aujourd'hui qui a été béatifiée, c'est sœur Anne-Marie Sala. Dans l'après-midi donc du 29 janvier 1920, assise à Cernusco sul Naviglio, près de Milan, dans le nord de l'Italie. Donc, les sœurs des religieuses, deux religieuses, les sœurs Miracoli et Bellerini, de la congrégation des Marcellines, en compagnie de leur chapelain, Don Tornaghi. Je donne les noms pour vous montrer que c'est bien un fait concret, vérifié, vérifiable. Mais ces trois personnes assistent à l'exhumation de trois religieuses défuntes. Et puis, on transfère leurs restes au cimetière du couvent. Et puis, là, la scène ne promet rien de bien réjouissant, bien au contraire. Hein, cependant, on fait une étrange découverte. Les corps, comme je vous ai dit, des deux premières sœurs, bon, déterrées, sont réduits à l'état squelette. Mais quand on arrive au cercueil de la troisième sœur Anne-Marie Sala, le fossoyeur le trouve si pesant qu'il pense que la dépouille mortelle n'est pas décomposé. Alors on ouvre donc le cercueil. Et on trouve, sous le linceul qui est resté blanc, très blanc, le corps intact, au visage frais et rose, de sœur Anne-Marie Sala, S-A-L-A. Le prêtre qui n'a pas connu sœur Sala, en conclut, c'est une jeune sœur. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. Or, comme je vous ai dit au tout début pour vous garder à l'écoute, à sa mort, sœur Anne-Marie avait 68 ans et non pas 30 ans. Et elle était ensevelie depuis 29 ans, soit depuis 1891. Et nous sommes en 1920, le 29 janvier. Alors, informé du fait, la supérieure générale des sœurs Marceline se contente très simplement de dire, « Bien, si le Seigneur le veut, il nous donnera un signe. » Or, quelques jours plus tard, une religieuse, sœur Gulfi, est prise d'hémorragies, des hémorragies si graves, que l'on envisage pour elle une intervention chirurgicale pour lui sauver la vie. Et la mère générale demande à sœur Gulfi, la malade, d'invoquer pendant 3 jours le Sacré-Cœur pour que, par l'intercession de sœur Anne-Marie Sala, l'opération soit évitée. Et, bien 3 jours plus tard, sœur Gulfi est hors de danger. Dieu a donné le signe attendu, semble-t-il, à tout le moins. Et aussitôt, on se met à recueillir des témoignages et des tas de documents sur sœur Anne-Marie Sala. Faut dire que c'était une sœur importante. Elle avait eu une vie extraordinaire. Beaucoup se souviennent d'elle aussi, de sa vie toute simple en même temps, et de ses vertus héroïques. Elle a occupé des charges très importantes. Elle a été assistante de la générale. C'était des vertus qu'elle pratiquait d'une façon héroïque, vous allez voir tout à l'heure. Elle les pratiquait bien humblement. Dans les nécessités de sa quotidienne, dans les nécessités quotidiennes plutôt de sa charge d'enseignante. Car ce sont des sœurs enseignantes, comme je vous ai laissé entendre. Et je parlerai de cela à la fin de l'émission d'ailleurs, dans la deuxième moitié, de l'importance de l'enseignement chrétien. Nombreux sont ceux qui avaient proclamé au décès de sœur Anne-Marie Sella qu'elle était une sainte. En particulier ses propres sœurs religieuses et ses anciennes élèves. Et aussi, en mai 1931, 11 ans après la découverte de son corps conservé, commence à Milan le procès religieux qui aboutira à la béatification le 26 octobre 1980. À cette occasion, le pape Jean-Paul II met en relief 3 enseignements tiré de sa vie et de son exemple, soit la nécessité de former et de posséder un bon caractère ferme, sensible et équilibré. Ensuite, la valeur sanctifiante de l'engagement dans le devoir d'État qui nous est assigné par les événements ou par l'obéissance. Et enfin, l'importance essentiel, dit Jean-Paul II, de l'œuvre pédagogique. J'ajouterais, moi, sans vouloir ajouter des paroles au pape quand même, j'ajouterais l'importance de la formation religieuse des enfants. J'ai dit, je vais revenir tout à l'heure. L'Église catholique, en béatifiant puis en canonisant des gens, m'a simplement proposé, à notre imitation, l'exemple des bienheureux et des saints. Ce sont des chrétiens de toutes les époques, vous le savez, je vous en parle depuis 3 ans et demi, qui ont pratiqué les vertus à un degré héroïque. Quand on y pense comme il faut, les leçons abstraites là, pour apprendre à se conduire comme du monde et comme des vrais chrétiens sont souvent rébarbatives, on considère ça comme des leçons de morale. Et c'est rébarbatif. Mais la vie des saints, elle nous présente, la vie des saints, la vertu sous un aspect bien plus attrayant souvent et bien plus encourageant. Évidemment que quand on entend des choses trop extraordinaires, ça peut être décourageant, mais aujourd'hui, vous allez voir, c'est encourageant. C'est simple, la vie de sœur Anne-Marie Sella. Il ne s'agit évidemment pas de copier les modèles dont je vous parle depuis 3 ans, à la lettre, c'est clair, vous le savez. Il s'agit de s'émerveiller de ce que Dieu fait dans les âmes, mais il s'agit surtout de les suivre, ces modèles, selon nos forces et selon la grâce que Dieu veut bien nous donner, qu'on a bien osé et voulu lui demander aussi. Demandez, vous serez exaucés. Il y a des gens qui demandent ça, d'être des saints, très humblement. Mais qui est donc cette sœur Marceline, dont le corps est conservé, quand on ouvre sa tombe en 1920? Eh bien, c'est à Brivio, en Italie du Nord, qu'Anne-Marie vient au monde. Elle reçoit le baptême le 21 avril 1829. La famille qui vit dans l'aisance est fidèle aux traditions chrétiennes dans cette belle région qu'on appelle la Lombardie, et qui n'était pas uni à l'Italie dans ce temps-là, ça viendra plus tard. Hein. La Lombardie, à cette époque, est réduite à l'état de province de l'Autriche, où on parle allemand. Anne-Marie Sella est la 5e de 8 enfants. Elle connaît une enfance heureuse. Elle fait ses premières études à la maison sous la direction d'une institutrice compétente et sympathique qui s'appelle Mademoiselle Alessandra. Ça l'aide beaucoup déjà. Et cette fillette, Anne-Marie, est très douée, elle est d'un esprit vif et équilibré. Mais dès ses jeunes années, elle entend l'appel de Dieu. Elle se sent sérieusement appelée à se consacrer. Comme d'ailleurs beaucoup d'enfants, beaucoup de filles et de garçons ont senti un appel, hein? C'était comme ça il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez, les gens plus âgés, hein? Presque tout le monde se sentait appelé. Mais celle qui se sentait vraiment appelée, ben, elle en était, elle. Et son père, qui veut pour elle une solide éducation, l'envoie dès l'âge de 13 ans, en 1842, au collège établi l'année précédente, à Vimercate, par les sœurs Marcellines, justement. Et ces religieuses, fondées depuis à peine 4 ans, par le directeur spirituel du grand séminaire de Milan, Don Biraghi, et par la mère Marina, oui, Marina Videmari, une Milanaise, elle aussi, eh bien, elle se consacre à l'éducation des jeunes filles de la bourgeoisie. Elle veut le frapper à la tête, n'est-ce pas? Elle veut... Il y a beaucoup de communautés qui sont fondées pour aider à l'éducation des enfants pauvres. Eux, ils sont un peu comme les jésuites, disons, ils visent une certaine élite pour créer une élite chrétienne. Et la nouvelle famille religieuse est placée sous le patronage de Sainte Marceline, dont je vous ai parlé d'ailleurs le 4 avril 1997, en parlant aussi des Marcellines. Elle était la sœur de Saint Ambroise. Je vous en ai parlé à ce moment-là parce que c'était l'année dernière, le 16e centenaire de Sainte Marceline, qui a vécu à Rome, et en 353, elle a reçu, là, le voile des Vierges consacrées, comme religieuse, en somme. Pour ça qu'elles l'ont choisi, comme patronne et comme nom. On les appelle les sœurs Marcellines, comme vous voyez. Dès 1838, donc, ces religieuses, lors de la fondation, ont installé leur première maison à Cernusco sul Naviglio, où l'on a trouvé le corps de la bienheureuse Anne-Marie Sala, conservé en 1920. Puis, en 1841, une seconde fondation est faite à Vimercate, non loin de Bergame, et du pays natal d'Anne-Marie Sala, et les sœurs Marceline, eh bien, après quelques années d'existence, je vous le fais, je le note, elles sont déjà au nombre d'une centaine, très populaires. Dès son entrée au collège, Anne-Marie Sala est en tête de classe, puis elle étudie avec une telle assiduité qu'elle en oublie parfois d'aller au réfectoire. Et je la comprends, quand on est jeune, on oublie de manger. Ça arrive, hein? Même des fois quand on est plus vieux. Et tout le monde ne peut pas être ou avoir été à la tête de sa classe comme elle l'a été. Mais il n'est pas conseillé d'oublier d'aller à la salle à manger à l'heure fixée. C'est bon de manger à l'heure fixe. Mais tous nous pouvons reconnaître dans le travail, comme le signale le père abbé d'un monastère bénédictin en France, on peut reconnaître dans le travail une diversion puis un remède à bien des tentations, dit-il. On peut constater, d'ailleurs, ajoute-t-il, la mollesse et la faiblesse de ceux qui, par paresse, ne veulent pas travailler. Et on peut se souvenir, enfin, que toute vie et même toute joie implique l'action et le don de soi, à moins d'être malade et cloué sur un lit, évidemment. Mais même de sur un lit comme ça, malade, paralysé, peut y avoir un don de soi. Le travail, pour les gens qui le peuvent, tient une place importante dans le plan de Dieu sur l'homme. Dès l'origine, Dieu a voulu l'associer à l'œuvre de sa création, puis lui confier la mission de, vous souvenez dans la Genèse, la mission de soumettre la terre dans le bon sens et de la gouverner avec sainteté puis justice, justement, en sorte que le nom même de Dieu soit glorifié par tout l'univers. Et puis le travail permet d'assurer sa propre subsistance, évidemment pour celle de sa famille. Il est aussi, le travail, l'occasion de s'associer à d'autres personnes puis de rendre service. Et n'oublions jamais, on en parle presque plus, du devoir d'État, mais par le devoir d'État accompli avec soin et conscience professionnelle. Chacun, me semble que tout le monde, chacun peut contribuer au développement de sa nation, de son peuple et puis de la société. L'Église l'a bien dit lors du Concile Vatican II. L'Église exhorte à ce moment-là les chrétiens à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres ou professionnelles en se laissant conduire par l'Esprit de l'Évangile. Et l'Église dit qu'en manquant à ses obligations terrestres, le chrétien manque à ses obligations envers le prochain et bien plus envers Dieu lui-même. Et il met en danger son salut éternel. Ainsi, dans les textes du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 43. Je vous parlais du travail qui est très important et la bienheureuse Anne-Marie Sala l'a accompli de façon magnifique. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a une prière de Saint Pie X, on en parle peu de Saint Pie X. Et il est exposé dans une très belle prière à Saint Joseph, et je reviens à Saint Joseph parce que je l'aime beaucoup, Saint Joseph. Et nous avons, nous ici à Montréal, comme principal lieu de pèlerinage, évidemment, l'oratoire Saint Joseph, d'où Radio Ville-Marie va diffuser ce soir, durant toute la soirée, une soirée de prière importante, organisée par la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Alors, en l'honneur de cette soirée, je voudrais vous lire m'inspirer de cette prière, plutôt, de Pie X à Saint-Joseph. Il explique quelle manière un chrétien devrait sanctifier son travail. Et voici le texte de cette prière. En partie. Glorieux Saint-Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en mettant le culte du devoir d'État au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, en regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons que j'ai reçus de Dieu, et de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés. Oui, de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même. Que j'ai sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis que j'aurais pu accomplir, et des vaines complaisances dans le succès. Que j'évite les honneurs. Amen. Évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas exercer un travail professionnel à cause de la maladie, du chômage, je vous l'ai dit, de l'âge. Il leur est alors possible, me semble, d'offrir leur état et leur amour au creux de leur souffrance à Dieu, en union avec la vie et la passion de Jésus, puis d'avoir par là une grande fécondité spirituelle pour le salut des âmes. Mais revenons à Anne-Marie Salat. Le 16 novembre 1846, à 17 ans, elle obtient son diplôme pour l'enseignement élémentaire, puis elle désire entrer aussitôt chez les religieuses, les Marcellines, qui l'ont formée. Mais le jour même, son cousin Jean Salat, Giovanni Salat, vient la chercher pour la ramener à Brévio. Et la situation de la famille a en effet changé. Sa mère se trouve en mauvaise santé d'abord, puis son père a été victime d'une escroquerie épouvantable. Il s'est vu obligé de vendre les trois quarts de sa fortune de ce qu'il possédait pour sauvegarder l'honneur des siens, sa famille. Ces épreuves exigent la présence d'Anne-Marie malgré son jeune âge. Elle est l'aînée à la maison. Elle soutient en particulier son père qui a perdu goût au travail. L'assiduité d'Anne-Marie à l'ouvrage est communicative. Le bien est plus communicatif que le mal en dépit des apparences. Et n'oublions jamais ça, que le bien est bien plus communicatif que le mal. Regardez autour de vous actuellement à l'occasion des fêtes. Tout le bien qui se fait. Si nous étions comme ça 12 mois par année, ce serait formidable. Un jour, son père proteste quand Anne-Marie, d'ailleurs, fait l'aumône à un pauvre, tellement ils sont réduits à presque rien. Il lui dit, à présent, il faut penser à nous. Et Anne-Marie lui répond gentiment, « Mais papa, il vaut mieux secourir un indigent. Dieu pensera à nous. » Ça arrive souvent que nous pouvons faire l'expérience que l'aumône n'appauvrit pas celui qui l'a fait. Mais ça l'enrichit. Ça nous permet de nous lier avec des gens et qui sont heureux grâce aux aumônes substantielles qu'on peut faire quand on peut les faire. Dieu ne se laisse jamais vaincre, d'ailleurs, en générosité. On est toujours récompensé, ne serait-ce que psychologiquement. Et non seulement Anne-Marie s'occupe de sa famille, mais elle trouve encore le moyen de faire l'école et le catéchisme. Elle a ça dans le sang, elle a ça en elle, l'éducation des enfants. Et 2 années s'écoulent comme ça, au terme desquelles la situation familiale s'est considérablement améliorée, heureusement, et Anne-Marie peut enfin rejoindre le couvent des Marcellines à 19 ans, en compagnie de ses 2 dernières sœurs, Geneviève et Lucie, qui sont admises comme collégiennes. Après 1 année de noviciat dans cette maison, dit Marceline, elle revêt l'habit religieux et le 13 septembre 1852, elle prononce ses vœux perpétuels avec les 24 premières religieuses de la congrégation. Elle est parmi les premières, comme vous voyez. Elle a 23 ans. La vie de la nouvelle religieuse, donc, se déroule désormais selon les besoins d'une congrégation enseignante. Et mon émission aujourd'hui est consacrée surtout à cet aspect-là, de l'enseignement chrétien, auquel on s'attaque de plus en plus chez nous. Et de 1853 à 1858, elle est maîtresse de français et de musique, comme on disait. Elle enseigne le français et la musique dans les classes élémentaires. 10 ans plus tard, en 1868, la voilà donc vice-supérieure ou assistante de la supérieure de la congrégation. Elle a 39 ans. Puis elle part à Gênes, qui donne sur la Méditerranée, cette ville dans le nord, là, ou dans le nord de l'Italie, où un nouveau collège vient d'être fondé. Puis elle parvient, par sa douceur, à désarmer l'hostilité des autres institutions d'enseignement qui n'apprécient pas tellement les méthodes nouvelles des Marcellines, qui sont trop modernes pour elle. Elle sait aussi conquérir l'estime d'une certaine élite de Gênes et du clergé. Les parents sont séduits d'ailleurs par sa bonté. Et quant aux jeunes filles, elle leur impose la discipline, d'accord, mais avec beaucoup de bonté, hein. Et puis, elle leur impose aussi le respect, les jeunes, pas si âgés, une quarantaine d'années, quoi, par son comportement. Hein. Elle est digne, elle est pleine de douceur. D'ailleurs, souvent, les religieuses ont l'air plus jeunes sous leur coiffe, hein, quand elles portaient des costumes. En 1878, donc, à 49 ans, Sœur Anne-Marie Salat revient de Gênes à Milan. Les Marcellines portent toujours un costume religieux, hein. Ici à Montréal même. Alors, elle revient de Gênes à Milan, où, tout en continuant ses tâches éducatives, elle est à la fois assistante générale, donc, comme je vous ai dit, chancelière et économe en plus. La fondatrice, déjà âgée, n'est pas commode. Elle l'emploie aussi comme secrétaire, si bien qu'on l'appelle bientôt le bâton de vieillesse de la mère fondatrice. Cette fondatrice qui considère pourtant sa collaboratrice comme une sainte, qui la consulte souvent puis lui confie les tâches délicates, malheureusement, ne l'aménage pas. C'est une femme au tempérament bilieux, probablement, qui souffre. Probablement une bonne mère fondatrice, mais qui a des problèmes. Elle traite donc Sœur Anne-Marie sans complaisance. Elle l'humilie parfois, la fait souffrir, par la vivacité de son tempérament plutôt difficile. Sœur Anne-Marie Salat supporte tout ça pendant 13 ans. C'est douloureux. Mais héroïque, ces sautes d'humeur de la fondatrice, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, bien, Sœur Anne-Marie reste profondément attachée à sa supérieure par les liens du respect puis de l'affection. Et on peut voir là un merveilleux exemple pour une époque comme la nôtre où on endure difficilement ces choses-là, même dans le mariage, où les relations en famille ou dans les communautés sont si fragiles. Quand elles n'aboutissent pas à une rupture totale, c'est pas facile d'endurer les autres. Hein. D'ailleurs, on connaît tous l'expression « l'enfer, c'est les autres », cette terrible expression. C'est terrible de dire cela, c'est du Jean-Paul Sartre. Hein. Et pour mieux comprendre le secret martyr de Sœur Anne-Marie, si douce, si bonne envers ses élèves, il faut considérer la mentalité de ces jeunes filles de l'époque. Elles sont un peu comme celles d'aujourd'hui, peut-être. Nous sommes en Italie, à une époque où l'anticléricalisme saupoudré d'orgueil scientifique, on pense que la science va tout apprendre et puis de soucieuse de progrès. On est en plein 19e siècle. Mais les jeunes filles, surtout dans le nord d'Italie, elles sont plus émancipées, donc plus européennes. Mais les jeunes filles n'échappent pas à cette ambiance. Elles sont hautaines, insubordonnées. Elles ne supportent pas la moindre contrariété, ni la plus petite remarque. Et Sœur Anne-Marie, parfaitement docile au Saint-Esprit, elle comprend que la seule solution pour exercer une réelle et bonne influence sur ses élèves est de s'imposer par une culture vaste et sûre qu'elle ne cesse de développer par une étude personnelle intense. C'est une intellectuelle en même temps qu'une femme simple et pratique. C'est une Marceline accomplie. Vous allez voir, aujourd'hui, les questions de Sœur Anne-Marie Salat, une bienheureuse, une éducatrice de grande qualité, une Marceline. Nous en avons, je vous le répète, à Montréal. Or, sœur Anne-Marie Salin veut vraiment pour ses jeunes élèves une culture vaste et sûre, et elle l'acquiert elle-même. Elle ne cesse donc, comme je vous ai dit, de le développer par une étude personnelle. Elle possède d'ailleurs une connaissance très approfondie déjà de la littérature italienne, mais aussi des littératures étrangères. Elle s'intéresse aussi, croyez-le ou croyez-le pas, des sciences profanes. Elle s'intéresse à la physique, à la chimie, à la botanique, à la médecine, en plein milieu du 19e siècle. Elle connaît aussi la théologie, la philosophie, l'écriture sainte. Elle s'intéresse à l'art, en particulier à la musique. Elle s'intéresse aussi aux méthodes pédagogiques. Ce sont des sœurs éducatrices accomplies que ces Marcellines. Elle se perfectionne sans cesse en latin et en grec, notre bienheureuse Anne-Marie Salin. Elle parle le français et l'anglais à la perfection. Oui, c'est une enseignante compétente et cultivée, c'est une véritable Marceline. Et sans ostentation, elle fait profiter ses élèves de son savoir. Elle prépare soigneusement ses cours, elle s'adapte surtout aux diverses intelligences, puis elle encourage les meilleurs élèves, mais elle aide particulièrement les moins doués qu'elle appelle ses joyaux. Elle a une âme de véritable chrétienne. Ainsi, durant 7 ans, elle va s'occuper d'une enfant attardée, pour lui donner quelques connaissances, comme je la comprends. Et c'est long. Sa méthode pédagogique unit en une synthèse harmonieuse, disons, ce qui est divin et ce qui est humain. L'évangile et la culture, comme nous le demande le pape très souvent. Unissons l'évangile à la culture. La foi et la vie, elle unit ça aussi. D'ailleurs, les personnes consacrées qui se dévouent à l'éducation des enfants. Le pape Jean-Paul II a dit qu'ils sont appelés à faire entrer dans le champ de l'éducation le témoignage radical des biens du royaume, le témoignage radical qu'on en entend dans l'Évangile, qui est, ces biens du royaume sont proposés, dit le pape, à tout homme, toute femme, dans l'attente de la rencontre définitive avec le Seigneur de l'histoire. Il l'a dit ça en 1996, le 25 mars, dans une exhortation apostolique, Vita consecrata, la vie consacrée. La vie consacrée, c'est consacrée à ça. À faire que tout homme se prépare à cette rencontre définitive avec le Seigneur de l'histoire. En histoire, d'ailleurs, par exemple, sœur Anne-Marie montre que la puissance de Napoléon a commencé à décliner lorsque l'empereur s'en est pris au pape. C'est assez vrai. Quand elle commente le paradis de Dante, dont je vous ai parlé aussi, elle allume dans les cœurs l'amour puis le désir du ciel véritable. Quand elle explique l'Iliade, elle indique que l'idée de Dieu n'a manqué à aucun peuple. Et le pape vient d'en parler d'ailleurs. Ah, il faudrait que je vous fasse une émission sur ce que le pape vient de déclarer dans plusieurs occasions, admirable sur le respect des gens qui ne sont pas catholiques, même pas chrétiens. Admirable. Or, grâce à son tact, sœur Anne-Marie, bienheureuse Anne-Marie, elle met en pratique ce qu'enseigne saint François de Sales. Qu'est-ce qu'il dit saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, troisième partie, chapitre 26? Il dit ceci, je transforme un peu son texte parce que c'est un peu trop à la façon de... J'y touche un peu, je m'excuse. Si vous aimez réellement Dieu, vous parlerez tout naturellement de lui, avec vos voisins et amis, non pas en faisant des sermons, mais avec l'esprit de douceur, de charité et d'humilité. Tantôt dans l'oreille de l'un, tantôt dans l'oreille de l'autre, dit saint François de Sales. Il ajoute, vous prierez Dieu, au secret de votre âme, de faire passer vos paroles jusque dans le cœur de ceux qui vous écoutent. Surtout, il faut faire cela doucement et suavement, non par manière de correction, mais par manière d'inspiration. Car c'est merveille combien une bonne parole est une puissante amorce pour attirer les cœurs. Mais c'était ça, Anne-Marie Salin. Elle faisait ça. Et notre époque n'est pas habituée à entendre parler de Dieu entre amis à propos des événements ordinaires de la vie. Aussi, Il y a quelque chose à retenir du style de Sœur Anne-Marie-Sala pour christianiser, me semble, nos relations sociales, peut-être. En tout cas, sa tâche est souvent ingrate à cette religieuse. Mais elle s'en décourage pas. En 1869, bon, elle a passé 70 ans, là, elle est rendue à près de 80, elle donne à l'une de ses sœurs, devenue elle aussi Marceline, elle donne ses conseils, là. Je ne crois pas... Ne crois pas inutile la fatigue qui n'a pas immédiatement produit de fruits. Ne te décourage pas. Aie patience. Et avec l'aide de Dieu, tu pourras gagner beaucoup en travaillant à sa vigne. Oh, pardon. Si, par hasard, nous trouvons notre charge supérieure à nos forces, gardons-nous bien de perdre la tête, dit-elle. C'est alors que nous avons un motif et même le droit d'attendre une aide plus grande du Seigneur. Alors, pour Sœur Anne-Marie Sala, tout se passe en présence de Dieu, très simplement. Et par son exemple, elle finit, oui, par faire aimer cette piété-là à ses élèves. Elle leur dit d'ailleurs la vraie piété, on a retenu ces paroles-là en particulier, la vraie piété est un trésor à tout âge et dans toutes les conditions d'existence. La piété sait s'adapter aux exigences de la famille et de la société et se rendre aimable à tous. Comme tous les saints, Sœur Anne-Marie veut ressembler à Jésus. Jésus crucifié, ressuscité, sans rechercher pour autant les pénitences extraordinaires. Pas besoin, dit-elle, de se flageller, de se crucifier. Mais si chaque jour nous prenons en paix la croix qui survient, nous pouvons être certaines de notre salut. Même les plus petites peines que nous endurons sont excellentes. Les chagrins, mettez-les dans le cœur du bon Dieu, et vous les retrouverez dans l'autre vie transformés en joie. Donc, pas besoin de se lamenter. Le bois de la croix sert merveilleusement à allumer le feu sacré de l'amour de Dieu. Depuis plusieurs années, Sœur Anne-Marie Sala souffre d'une tumeur au dos qui prend des proportions inquiétantes. Puis là, elle endure de temps à autre une véritable torture qui lui arrache les larmes. « Excusez-moi, dit-elle, alors j'ai donné le mauvais exemple. Je serai plus attentive. Là-haut, je prierai pour toutes, comme il sera beau, le paradis. » Et elle dit aussi, tandis qu'à la chapelle, là, on chante les litanies de la Sainte Vierge, et que Sœur Anne-Marie, toute confiante en Dieu, répète avec peine, « Priez pour moi, priez pour moi. » Bien, l'invocation « Reine des Vierges », elle rend doucement son âme à Dieu. On peut dire que tout le ciel est certainement en fait pour la recevoir. Non, elle n'est pas aussi âgée que je vous ai dit. Elle était plus jeune, elle avait 68 ans. Habituée à vivre en la présence de la Trinité, de la Sainte Vierge, des anges et des saints, la bienheureuse Anne-Marie a certainement ouvert et émerveillé le regard de son âme sur ce monde bien-aimé qui est devenu enfin visible. Car nous vivons au ciel au fond, mais nous ne le voyons pas. Nous sommes entourés des saints, des anges, de Dieu, de Sainte Vierge. Et c'est comme ça qu'a vécu cette sœur Marceline, une enseignante, sans extase ni miracle. Sa sainteté était toute intérieure et toute livrée à la présence de Dieu, puis aux peines et aux joies d'un devoir d'état monotone, peut-être parfois ingrat dans certaines circonstances, et dans la patience exigée par la vie communautaire, mais dans les joies de l'enseignement, elle a trouvé un grand bonheur. C'est un exemple tout simple et à la portée de nous tous, qui sommes appelés à la sainteté, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de ça. C'est dans Lumen Gentium, la lumière des peuples. Voici le texte, c'est au numéro 40. Il est donc bien évident, disent les pères du Concile, les évêques du monde entier, il est donc bien évident que pour tous, l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité vous s'adresse à tous, oui. Ceux qui croient au Christ, tous ceux qui croient au Christ sont appelés. quel que soit leur état ou leur rang, disent les évêques. Dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence, parce que les saints répandent l'humanité, le sens de l'humain, par leur amour, par leur dévouement, par leur empressement aux autres. Hein. Je reviens au texte. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues, suivant la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, disent les pères de l'Église, les pères du Concile, afin que, marchant sur ses traces, sur les traces du Christ, là, puis devenu conforme à son image, puis accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient, avec toute leur âme, voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Il termine en disant ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme en témoigne, avec éclat, l'histoire de l'Église, par la vie de tant de saints, dont nous vous parlons tous les jours, ici, à Radio Ville-Marie, et à Radio Soleil, à Sherbrooke. Bienheureuse Anne-Marie Salah, obtenez-nous du ciel quelque chose de votre aimable équilibre, pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, nous vous le demandons, pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers, vivants et défunts, et pour tous les enseignants et enseignantes qui cherchent à faire de nos enfants des enthousiastes de la sainteté. Amen. Je vous signale qu'il y a des enseignants qui apporte en classe, au secondaire, même au secondaire 2, quoi. C'est pas très âgé, ce secondaire 2. Ils apportent dans la classe un gros radio avec de bons haut-parleurs. Et quand, mettons, l'émission porte sur Charles de Foucault, comme ça s'est fait il y a pas longtemps, on fait entendre l'émission Rencontre spirituelle sur Charles de Foucault. Et la vie de cet homme extraordinaire charme des enfants du secondaire 2. Oui, ça se fait dans des écoles, à Montréal, et aussi à Sainte-Thérèse et ailleurs. J'en ai des échos, des professeurs qui me disent combien les enfants sont ravis. Encore faut-il que le professeur connaisse un peu sa matière et qu'il puisse choisir les bonnes émissions qui peuvent intéresser les jeunes. Aujourd'hui, il est possible que Sœur Salah les intéresse, parce que c'est une femme de culture, de bonté, de dévouement, de don d'elle-même, une vraie religieuse enseignante qui est un modèle pour nos enseignants, nos enseignantes, même laïques, pourquoi pas. Un des grands problèmes dans l'éducation de nos enfants sur le plan religieux, c'est de leur donner l'impression qu'au lieu de permettre aux enfants de rencontrer Dieu qui se dévoile comme un Dieu d'amour et de grâce, eh bien, on leur parle plutôt d'un Dieu plutôt dominant, celui qui donne tout pouvoir à ceux qui exploitent, on dirait. Ça existe encore, on voit ça dans des textes des fois. C'est plutôt rare, heureusement, il y a un grand changement. Mais par contre, on va très loin. Dans Le Devoir, dans un article de Solange Lefebvre, je lis ce qui suit. Les enfants doivent honorer leurs parents. Et elle rejette ces propositions-là. Elle dit que ce sont là des positions dépassées en théologie. Que les enfants doivent honorer leurs parents. L'autorité vient de Dieu et le père est son représentant dans la famille. Alors, voilà une autre position dépassée en théologie. Il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Elle rejette ça. Elle rejette même « Dieu protège ceux qu'il aime ». Or, il nous aime tous. Il nous protège. C'est nous qui nous jetons dans le pétrin, dans les horreurs, ou qui jetons les autres dans les horreurs et le pétrin, en les exploitant. Elle cite aussi « Dieu exauce ceux qui prient avec un cœur pur ». Ce sont là des positions dépassées en théologie. Il faut se sacrifier pour les autres. C'est terrible, elle dit que c'est dépassé. Mais c'est incroyable. Il me semble que l'éducation de l'esprit, puis aussi de la vie selon l'esprit, ça achemine un enfant chrétien vers la vie dans l'esprit. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le développement de son intelligence à l'enfant, puis l'assimilation par l'huile d'une culture humaine, la purification de son cœur. Il me semble que ça le rend bien plus capable de Dieu, bien plus accessible à l'enseignement du maître intérieur qui l'habite et qui est Dieu. Quand on est soi-même un disciple du Christ, il me semble, on n'a aucun doute que Dieu agit dans les âmes, dès l'enfance, que son action s'insère en nous, même dans nos petits-enfants, plus intimement et plus efficacement qu'aucune intervention humaine. Dieu est plus puissant que nous. On sait bien que l'action de Dieu est le seul principe d'une vraie conversion, d'une vraie vie intérieure. Mais oui, aucun disciple du Christ n'en serait douté. Les promesses du Christ sont formelles, il le dit. Je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai mon esprit, il sera votre assistant, votre consolateur. Il vous enseignera en toutes choses, il vous rappellera mes propres paroles. Le vrai chrétien, c'est celui dans la vie de qui Dieu est présent, plus que l'ami le plus cher, à qui Dieu est une lumière, un secours constant, qui le cherche à travers tout, qui vit de lui. C'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants. Le vrai chrétien, il utilise la joie puis la souffrance, puis il n'est avili ni par l'une ni par l'autre, parce qu'au creux de sa souffrance, il maintient sa joie et son amour de Dieu. Il sait que Dieu l'aime en dépit des souffrances qui surgissent. Il sait bien que c'est pas Dieu qui le fait souffrir. Il a une règle d'or pour juger de tout, le vrai chrétien, une liberté souveraine, une source secrète de chaleur et de joie. Le christianisme n'est cela que quand il est intégralement vécu. Comment peut-il être intégralement vécu si on ne l'enseigne pas? Le christianisme n'est attirant, il n'est efficace que sous cette forme-là. Jésus demande de grands sacrifices, c'est sûr, dans l'ordre de la pureté, de l'humilité, du détachement, de la pauvreté, du pardon, puis de la patience, en dépit de ce que dit Solange Lefebvre dans Le Devoir. Nous devons passer par un dépouillement pour retrouver notre moi vrai et Dieu vivant en nous, et pour l'accueillir et le faire vivre en nous. Jésus promet de grandes grâces. Il promet la béatitude et la vraie vie, hein. Mais Jésus n'est entendu que d'un petit nombre. Nous sommes tellement muets. Comment nos enfants peuvent-ils nous entendre si nous ne parlons pas? Mais qu'est-ce qu'on attend pour crier, pour témoigner, pour toucher toujours davantage? Il est très important de faire comprendre aux enfants, dit Madeleine Danielou dans un très beau texte. Il est très important de faire comprendre aux enfants, même très jeunes, le lien qu'il y a entre la piété et la conversion du cœur, et que les sources de la religion puis de la morale sont les mêmes. Alors assurons d'abord cette vie morale, la loyauté, le sens de la justice, la parfaite honnêteté. Une conscience corrompue chez un enfant ne peut plaire à Dieu, qui est ami du bien. Un chrétien est un être intègre, me semble, qui ne triche pas, comme tous ces gens qui trichent dans le pouvoir. C'est tellement épouvantable. On dirait que dans tous les pays du monde, c'est à savoir qui va voler davantage. Un chrétien ne nuit à personne. Il rend à chacun son dû. Un chrétien ne s'empare pas des biens qui arrivent pour aider les plus pauvres au Guatemala ou au Nicaragua ou ailleurs pour les revendre et faire de l'argent. Comment se fait-il qu'il se passe tellement d'horreurs dans ce monde? Les premières expériences religieuses d'un enfant sont liées donc à des actes moraux, un tort reconnu, un pardon accordé, une aumône secrète et vraiment coûteuse quand on les habitue à aider les plus pauvres, à les amener même visiter des pauvres. Il entre, le chrétien par là, dans le domaine de la joie spirituelle. Il faut faire entrer nos enfants dans le domaine de la joie spirituelle. C'est là qu'on se sent léger et accordé à Dieu. Parce que là, il nous semble qu'une voie s'ouvre à nous. où nous pourrons avancer désormais guidés par une lumière d'en haut. Si nous gardons notre conscience pure, si nous aidons nos enfants à garder leur conscience pure, bien cette lumière va les attirer doucement vers les vertus évangéliques. Ils en recevront une intelligence croissante. Oui, les vertus évangéliques, c'est pas de la niaiserie. Voyons. C'est essentiel pour être heureux, il me semble, même chez des incroyants. Elles sont la porte du royaume de Dieu. Et notre Seigneur a promis la béatitude, c'est-à-dire la vue de Dieu, l'éternelle consolation à ceux qui les pratiquent, qui seront pauvres en esprit, puis affamés de justice, doux et humbles de cœur, comme la bienheureuse Anne-Marie Sala. Comment pouvons-nous prétendre être de vrais chrétiens si nous restons attachés à l'argent et aux honneurs, ni engagés dans des passions sensuelles, durs et orgueilleux, ricaneurs, indifférents au bien des autres, rejetant toute souffrance, en étant esclaves du monde? Il nous faut renoncer, me semble, à ce monde imbécile, dans ce qu'il a de mauvais. Il ne faut pas quitter le monde, nous sommes plongés dedans. Nous sommes environnés de forces contraires, c'est sûr, et de gens indifférents, puis engagés dans des affections aussi, des études et des devoirs que nous ne devons absolument pas sacrifier. Nous avons le poids aussi de notre propre chair qui nous tire vers le bas. Il ne faut pas dissimuler aux enfants combien cela est grand et difficile d'être un vrai chrétien. Alors il faut les placer, les enfants, les placer d'emblée sur un terrain solide de la conversion du cœur, d'une dévotion prouvée par la fidélité puis le service. Ce n'est pas tant par la contemplation de la beauté du monde que le chrétien va à Dieu, que par l'humble imitation des vertus du Christ. C'est dans l'ordre moral que s'enracine la foi. Mais d'accord, la beauté du monde demeure précieuse pour le chrétien. Soyons pleins d'admiration pour la beauté du monde, mais d'abord des êtres pleins d'attachement à l'Évangile et à Jésus-Christ.